Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Alors, comment on est dans le prophète Ésaïe. Et comment ça se passait à l'époque de Jésus même, et même jusqu'à présent, dans les synagogues, la lecture de la parole de Dieu, la lecture d'Ésaïe, du rouleau Ésaïe. Mais il y avait un... On faisait comme ça, il y a deux rouleaux, alors c'est enroulé de chaque côté, et on le fait tourner. C'est pas comme nos livres, c'est un système beaucoup plus ancien. Et vous allez voir le monsieur comment il fait là. Je lance un petit peu la vidéo. Voilà. Donc on lit de droite à gauche, c'est différent de nous, et vous allez voir quand il arrive au fond de la ligne, eh ben, il va repartir à droite, en haut de la page, et puis on tourne d'un côté, on déroule de l'autre, et comme ça, eh bien, on lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. Ce qui est remarquable avec le prophète Ésaïe, c'est que on a retrouvé des vieux rouleaux comme ça, qui date de plus de 2000 ans. Et les textes qui étaient écrits dans ces rouleaux, c'est les fameux manuscrits de la Mer Morte, correspondent aux textes que nous avons aujourd'hui. La parole de Dieu a été parfaitement conservée pendant 2000 ans. Et ça, c'est vraiment superbe, c'est vraiment extraordinaire. Alors, voici le... Ce rouleau ici, qui a été le fameux rouleau de la Mer Morte, il est plus ancien même que le Seigneur Jésus-Christ. On va en parler tout à l'heure. Il a lu dans la synagogue. Et ce rouleau, il faisait à peu près 30 cm d'épaisseur. Donc 30 cm, ça fait un petit peu plus grand. Si je le mets à l'échelle 1, ça fait à peu près quelque chose comme ça. Hein, une trentaine de centimètres de haut. Et ça fait 7 mètres de long. Et donc... il y a des pages qui sont cousues ensemble. On voit les pages ici, là, les différentes pages. Il y en a, je ne me souviens plus, 17 feuilles de parchemin. Donc, c'est de la peau d'animal. Et ça fait 7,34 m de long. Donc, c'est très, très long. Hein. Et c'était enroulé comme ça et on le faisait tourner. Et on a retrouvé un rouleau complet du texte de Ésaïe, en parfaite conservation, enfin, façon de parler. Le début est un peu abîmé, bien sûr. Les premières pages de livre, c'est celles qui s'abîment le plus. Mais on retrouve le texte que l'on a aujourd'hui. Et donc, on peut vraiment se fier dans ce qui est écrit. Pourquoi c'est important de se fier, qu'on a besoin de se fier dans ces choses-là? Parce qu'on va parler de prophétie ce matin. Alors, c'est les premières pages qui vont nous intéresser. Hein. Si j'arrive à le faire marcher. Voilà. Voilà les premières pages. J'ai grossi un petit peu. C'est notre texte de ce matin et de la semaine dernière. Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2. Il y a 56 colonnes. Il y a 66 chapitres dans notre Bible. Donc ça doit correspondre à peu près. Hein. Voilà comment c'était écrit. Alors le premier mot, c'est celui-là. J'ai regardé, c'est bien le mot hébreu qu'on trouve dans nos Bibles, le premier, qui est Shazom. Donc c'est exactement les mêmes lettres que ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire hébraïque. Et voilà ici le premier mot. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz. Ésaïe chapitre 1, verset 1. Alors, on va un petit peu, par rapport au contexte, écouter ce qu'il s'est passé la semaine dernière. De quoi on a parlé la semaine dernière? C'est un petit peu sévère. Les enfants pourraient dire, ben voilà, hein, Dieu, il gronde son peuple. Il gronde son peuple. Il a des choses à lui dire. Il n'est pas content. Et vous allez entendre effectivement que Dieu n'est pas content. C'est un lecteur qui va lire... pour nous, le texte hébreu, voilà, vous avez, si vous savez pas lire l'hébreu comme moi, vous serez content que quelqu'un ait pu faire une bonne traduction en langue commune, hein, qu'on utilise tous les jours. Alors, je vais mettre tout ça en marche.
Voici la vision qu'Ésaïe, fils d'Amos, a reçue au sujet du royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Il a vu ces choses à l'époque où Ozias, Yotam, Akaz, puis Ézéchias étaient rois de Juda. Ciel, écoute, et toi, la terre, tends l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir mes enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire où son maître lui apporte à manger. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Quel malheur, peuple coupable, peuple chargé de crimes. Vous êtes une race de bandits, des fils pourris. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez méprisé le Dieu saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Vous qui continuez à vous révolter contre moi, à quel endroit faut-il encore vous frapper? La tête est couverte de blessures. Le cœur tout entier est malade. Des pieds à la tête, plus rien n'est en bon état. Partout, il n'y a que blessures, traces de coups, plaies ouvertes. Personne ne les a nettoyées. Personne ne les a couvertes de bandages. Personne ne les a soignées avec de l'huile. Votre pays ressemble à un désert de tristesse. Vos villes sont détruites par le feu. Des étrangers dévorent vos récoltes sous vos yeux. Vos champs sont détruits, bouleversés comme après le passage des ennemis. Seule la ville de Sion est restée comme un abri dans une vigne, comme une hutte dans un champ de légumes, comme une ville entourée de soldats ennemis. Si le Seigneur de l'univers n'avait pas laissé quelques personnes en vie chez nous, nous serions comme la ville de Sodome. Nous ressemblerions à Sodome. Vous, les chefs et le peuple, vous ne valez pas mieux que les chefs corrompus et la population de Sodome et Gomorrhe. Écoutez donc la parole du Seigneur. Ouvrez vos oreilles à l'enseignement de notre Dieu. Le Seigneur dit, « À quoi me servent vos nombreux sacrifices? Vous brûlez entièrement des moutons pour moi. Vous m'offrez la graisse des veaux. J'en ai assez de tout cela. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela? Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat. Vous organisez de grands rassemblements. Et en même temps, vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. Elles sont un poids pour moi. Et je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous pur, éloignez de mes yeux vos actions mauvaises, arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez à respecter le droit, ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice, défendez les droits des orphelins, prenez en main la cause des veuves. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme. Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Autrefois, le droit était respecté à Jérusalem. Les gens vivaient en étant justes. Mais maintenant, la ville est remplie d'assassins. Jérusalem, ton argent s'est changé en déchets. Ton bon vin est mélangé avec de l'eau. Tes chefs sont des révoltés et ils s'associent avec des voleurs. Ils aiment les cadeaux et sont prêts à tout pour en recevoir. Ils ne défendent pas les droits des orphelins et ils refusent de prendre en main la cause des veuves. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Le Maître, le Dieu puissant d'Israël. Quel malheur! Je me vengerai de mes adversaires. Je prendrai ma revanche sur mes ennemis. Jérusalem, je me tournerai contre toi. Je te rendrai pur comme avec du sel. Je ferai fondre tes déchets. J'enlèverai toutes tes impuretés. Grâce à moi, tes juges ressembleront à ceux d'autrefois. Tes conseillers seront comme ceux de jadis. Ensuite, on pourra t'appeler « Ville de la justice ». Ville fidèle. Sion sera sauvée en respectant le droit. Ses habitants qui reviendront vers Dieu seront sauvés en pratiquant la justice. Mais ce sera une catastrophe pour les révoltés et les pécheurs. Ce sera la fin pour ceux qui abandonnent le Seigneur. Alors, vous aurez honte des arbres sacrés que vous aimiez tant. Vous serez déçus des jardins que vous avez choisis pour y servir les faux dieux. Vous ressemblerez à des arbres qui perdent leurs feuilles ou à des jardins qui manquent d'eau. L'homme fort deviendra comme de la paille et ses actions comme une étincelle. Les deux brûleront ensemble et personne n'éteindra ce feu.
Voilà. Donc, il n'y avait pas des choses agréables à dire à son peuple et à ce moment-là, le Seigneur. Regardons la suite maintenant, la suite de ce passage. Ésaïe chapitre 2, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Prophétie d'Ésaïe aux paroles qu'a vues Ésaïe. On est sur le terrain de la prophétie ici, ou de la vision dans le sens de la révélation de ce qui va arriver dans le futur. Et on va entendre ce matin des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Mais comment être sûr que ce qu'on va voir ce matin va se réaliser? Comment être certain de la parole annoncée? Est-ce que Ésaïe est vraiment un prophète de l'Éternel? Comment le savoir? Est-ce que quelqu'un a une idée parmi nous? Comment savoir ces choses-là? Qu'est-ce qu'on avait lu dans l'introduction à tous ces livres, dans le livre de Deutéronome? Qu'avait dit Moïse? Comment est-ce qu'on reconnaissait un vrai prophète d'un faux prophète? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui, si la parole que le prophète a dit ne se réalise pas, c'est pas un prophète de l'Éternel, il faut pas le suivre, c'est un faux prophète. Et Ésaïe a donné beaucoup de prophéties dans son livre, on va regarder les 6 premiers chapitres, mais à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 39, on a toute une série de prophéties qui sont données et qui se sont accomplies du vivant d'Ésaïe. Il a annoncé des choses que ses auditeurs ont vues de leurs yeux quelques temps plus tard. Et donc, il pouvait avoir la certitude que Ésaïe était vraiment un prophète de l'Éternel, parce que ce qu'il a annoncé, ça s'est accompli. Et il a annoncé beaucoup d'autres choses, comme la prophétie que nous allons voir maintenant et qui n'est pas encore accomplie. Mais nous pouvons avoir la certitude qu'elle s'accomplira certainement. Certainement cela va s'accomplir. Alors lisons maintenant les versets suivants. Chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrue et leur lance pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il arrivera dans l'avenir ou dans la suite des temps. Alors cette formule, quand on la trouve dans la Bible, ça rapporte à du temps lointain. Des prophéties qui vont se réaliser, mais pas tout de suite, dans le temps lointain. C'est tout ce que les personnes qui écoutaient pouvaient savoir. Ça va se réaliser, mais pas tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se réalise? On vient de le lire au verset 3. Des peuples nombreux qui se rendent en foule à la montagne de l'Éternel. Ils se rendent en foule à cette montagne. Cette montagne, elle est plus haute que les autres. Et vous savez, le Seigneur a dit, quand une ville est haute comme ça, elle peut pas passer inaperçue. Et Jérusalem, à ce moment-là, ne passera pas inaperçue. La maison de l'Éternel se verra de loin. Et elle sera plus haute que toutes les autres collines. Et les personnes, facilement, pourront aller vers elle. Et pourquoi? Pourquoi ils viendront là? Pourquoi toutes ces personnes qui s'encouragent les unes et les autres, pourquoi elles vont là? Qu'est-ce qui se passe là-bas sur cette montagne? Eh bien là-bas, sur la montagne de l'Éternel, il y a un juge. Il y a un juge, il y a un arbitre de paix. Et par sa présence et par ce qu'il fait, ce qu'il dit, eh ben, il n'y a plus de guerre. Il y a la paix. Et les personnes qui ont des problèmes, ils pouvaient monter, on pourra monter devant le Seigneur, devant à ce moment-là. Et puis, voilà, il y a là un arbitre de paix. Et il n'y a plus de conflit, et il n'y a plus de guerre. Et puis c'est définitif. Toutes les nations qui se battent entre elles. Et depuis les paroles d'Ésaïe, il y a toujours eu des guerres sur la terre. Ça ne s'est jamais, jamais arrêté. Mais un jour, ça se terminera. Un jour, ah ben, qu'est-ce qu'on fera avec les chars de guerre? Ah ben, je sais pas. On s'en servira peut-être comme machine agricole pour labourer la terre. Qu'est-ce qu'on fera avec les bombes? Ah ben, peut-être on récupérera la poudre, puis on fera de beaux feux d'artifice avec. En tout cas, on ne fera plus la guerre. On recyclera toutes ces armes de guerre et on n'apprendra même plus à faire la guerre parce que ce ne sera plus nécessaire, parce qu'il y aura la paix universelle. Plus de conflits entre les pays. Et on a l'espoir également, plus de conflits entre les personnes, entre les familles, plus de bagarres, plus de disputes. Alors, qui c'est ce « il » ? Il est question de « il sera juge ». Qui c'est ce « il » ? Plus tard, dans son livre, le prophète Ésaïe va en parler. Il va nous en dire davantage sur ce « il ». Ce « il », c'est le serviteur de l'Éternel. Et c'est vraiment super d'apprendre à le connaître. Et un chapitre 42, beaucoup plus loin là dans notre livre, 42, on est peut-être par là, hein, dans ces pages-là, Ésaïe, par la bouche de Dieu, par la bouche, par l'écriture, par les lettres d'Ésaïe, nous en apprend un petit peu plus. Ésaïe 42, une bonne adresse dans le rouleau d'Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Il ne fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas, ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Le serviteur de l'Éternel. Un petit peu plus loin, Ésaïe 49. La parole de Dieu nous parle encore de ce serviteur. Verset 5. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, le peuple d'Israël, pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Être la lumière des nations. Et vous savez ce qui s'est passé 700 ans plus tard dans une synagogue de Galilée. Un jeune homme s'est levé dans la synagogue et puis on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. C'était pas celui-là, c'était un plus récent. Celui-là, il était déjà dans la grotte de Qumran. Et il a lu. Il a tourné et il a lu. Et il a lu Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'est arrêté là, le jeune homme, et il a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Et les gens avec là, devant leurs yeux, le serviteur de l'Éternel dont parlait Ésaïe. Waouh ! Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On sait, quelques temps plus tard, que ce serviteur de l'Éternel, Jésus de Nazareth, l'ami des pécheurs, il a été dans le temple. Et puis, il s'est adressé à la foule en disant, « Je suis la lumière du monde. » celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Devant cette vision de tout ce qui se passait à Jérusalem, de toutes ces gens en foule qui allaient, qui voulaient marcher dans les voies de l'Éternel, qui marchaient à la lumière de Dieu. Ah ben, Ésaïe, on peut l'imaginer en train de dire cette vision. Et puis les gens sont là, qui l'écoutent. Voici la parole de l'Éternel. Et puis il se retourne et il dit, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Et puis là, non, devant lui, il n'y a plus personne. Tous les gens sont partis. Il n'est pas écouté. Et voici ce qui se passe ensuite de notre texte au verset 6. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars, en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Après la description d'une vision magnifique, un avenir magnifique, voilà un présent catastrophique, un peuple abandonné. Tu as abandonné ton peuple. C'est un constat. Peut-être il est fait référence là à ce qui s'était passé à ce moment-là. Jérusalem entourée d'une nation ennemie, tout le pays est ravagé. Il n'y a que Jérusalem qui est là comme une cabane au milieu d'un champ de concombres. Imaginez la situation de Jérusalem. Au chapitre 1, nous avions vu les reproches que Dieu faisait. Le peuple était hypocrite. Le peuple était hypocrite. Et il était aussi... il y avait de l'injustice sociale. L'hypocrisie et l'injustice sociale étaient mis en évidence. Et là, nous allons voir un autre problème maintenant qui se passait à Jérusalem et parmi le peuple en ce temps-là. Le peuple est rempli de mauvaises choses. Il est évoqué dans notre texte de la divination, de la magie, des choses de l'Orient, des choses que faisaient les autres nations et que le peuple d'Israël ne devait pas pratiquer selon le contrat qui avait été passé au mont Sinaï entre l'Éternel et son peuple. Et le matérialisme est partout, malgré la ruine du pays, il n'y a que l'argent qui compte. Verset 8, un peuple aussi idolâtre, un peuple idolâtre, son pays rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et dans le prophète Ésaïe, les idoles sont toujours des fabrications humaines. L'homme fabrique une idole et il se prosterne et lui dit « Sauve-moi !» Et on va voir que jusqu'à présent, ce problème dure avec les hommes. On peut imaginer ce peuple qui se courbe devant ses idoles. Et Dieu dit, vous aimez vous courber devant les idoles, vous allez vous courber. Vous allez voir que vous allez vous courber et vous n'allez jamais vous relever. Il n'y aura pas de pardon. Le pardon va être impossible. Vous ne vous relèverez jamais. Lisons la suite, chapitre 10, versets 10 à 22. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le maître de l'univers, s'est réservé un jour. Un jour contre tout homme orgueilleux et hautain. Un jour contre tout ce qui s'élève afin qu'il soit abaissé. Un jour contre tous les cèdres de Liban, quelle que soit leur taille, leur hauteur, tous les chênes de Bazan. Contre toutes les hautes montagnes, toutes les collines élevées. Un jour contre toutes les hautes tours, toutes les murailles fortifiées. Un jour contre tous les bateaux longs courriers, tous les navires splendides. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront au top, aux chauves-souris, seront en train de gratter sous la terre, leurs faux dieux en argent et en or qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Un jour, Dieu sera contre tout ce qui est élevé. Un jour, Dieu sera contre tout ce qui est élevé. Aujourd'hui, on dit ce proverbe qui s'applique, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais un jour viendra, Dieu sera contre les orgueilleux. Il sera contre eux pour les abaisser. On voit que dans ce texte, Ésaïe s'adresse bien au-delà du peuple d'Israël. Il est question en effet des bateaux splendides. Juda n'avait pas de port. Et ces grands bateaux, ça rappelle les navires marchands des Philistins avec lesquels ils sillonnaient toute la Méditerranée de fantastiques bateaux. Dieu s'adresse ici à toute l'humanité. À toute l'humanité. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. Et il est question de ces arbres grands qui seront rabaissés. Ça fait renvoie un petit peu toutes ces images de choses abaissées et Dieu qui devient élevé à ce que il est dit la première prophétie qu'on a entendue tout à l'heure. Les fabrications humaines seront mises à terre. un jour toutes les grandes réalisations seront anéanties. Car un jour Dieu se lèvera, comment les hommes seront humiliés, comment ils seront abaissés, ce ne sera pas une humiliation volontaire que Dieu demande aujourd'hui. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, déclare l'apôtre Pierre, afin qu'il vous élève au temps convenable. Non, ce sera une humiliation par la terreur. Par la terreur, les hommes seront abaissés devant Dieu. Dieu seul sera élevé en ce jour-là. Et les hommes seront terrorisés au point de vouloir se cacher dans les trous, dans les fentes des rochers, de vouloir disparaître sous la poussière de la terre. Verset 22. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Une journée de terreur. Une vision d'un avenir magnifique. Une situation présente catastrophique. Et entre les deux, une journée de terreur où Dieu seul sera élevé. Alors, que faire aujourd'hui de ce magnifique rouleau d'Ésaïe? Qu'est-ce que nous devons retenir? On a peut-être pris conscience, on peut prendre conscience que ce texte s'adresse plus à nous qu'aux contemporains d'Ésaïe qui l'entendaient. Parce qu'on est beaucoup plus proche de l'accomplissement de cette prophétie. Chaque minute, chaque seconde qui passe nous rapproche de ce temps-là. Et ça s'accomplira certainement. Avec certitude, nous pouvons être certains que cette parole va s'accomplir. La semaine dernière, le focus était sur l'hypocrisie religieuse et sur l'injustice sociale. Et aujourd'hui, le focus est sur le fléau de l'orgueil et de l'idolâtrie. Alors, comment va notre monde? On ausculte beaucoup notre monde ces derniers temps. On réfléchit beaucoup à ce qui se passe. Moi, je dirais que l'orgueil humain se porte toujours très bien. Alors, les grands bateaux ont jamais été immenses, aussi immenses, c'est vrai. Si vous allez à la Tour Eiffel, il y a un panorama, tout le tour, il y a les différentes, dans les différentes directions, indiquées les tours les plus hautes et toutes les constructions les plus hautes que les hommes ont fait. Mais c'est pas ce qui nous impressionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus branché sur la technologie. Ah, notre smartphone, quel design il a. Et il y a des millions de capacités, de mégaoctets de mémoire dedans, et des pixels énormes. C'est énorme tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis on s'exclame devant les véhicules autonomes. Ça y est, ils marchent tout seuls, ils nous transportent là, ils nous transportent là. On n'a même pas besoin de conduire. Ça fonctionne tout seul à notre service, à nous. Et puis, on prend des tickets pour faire la prochaine croisière dans l'espace à 250 000 euros la place. C'est pas cher finalement, c'est pas si cher que ça. Hein. Les fusées vont bientôt nous amener faire du tourisme dans l'espace. L'orgueil humain se porte bien. On prétend être même capable de prédire la météo qui sera dans 100 ans. Quelle température on aura? Et on est tellement fort qu'on sait ce qu'il faut faire pour que ce soit différent de ce qu'on prévoit. Vraiment, l'orgueil humain se porte bien. Nous sommes comme des vrais dieux. Et on peut se prosterner devant la science et la technologie que nous avons créée. C'est formidable. Enfin, tout ça bien sûr, c'était avant le coronavirus qui nous viennent secouer un petit peu tout cela. Mais les choses, je crois, sont encore très ancrées. la prophétie d'Ésaïe 61:2 qu'a lu Jésus à Nazareth. Il s'est arrêté un jour. Je vous annonce un jour de grâce, une année de grâce. Et le verset commence, continue par un jour de vengeance de notre Dieu. Il y a aussi annoncé un jour de vengeance. Revenons à Jésus donc. Lisons ensemble Luc chapitre 21, versets 25 à 38. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à chercher ce passage. Luc 21, versets 25 à 38. Donc Jésus est sur le mont des Oliviers, une montagne juste un petit peu au-dessus du temple. Et là, ils avaient la vue sur le temple. Et là, Jésus dit ce qui va se passer au moment de son retour, les temps de la fin. Luc 21, on va se mettre au verset 25. Et Jésus parle. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui auront que faire, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et avec une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez en vous-même, en regardant que déjà l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront pas, mais mes paroles passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Redressez-vous, levez la tête. Verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et, quoi donc, de paraître debout devant le Fils de l'homme, de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, nous ne sommes pas destinés à être terrorisés à la venue du Seigneur, loin de là. Nous sommes destinés à être debout, à être debout. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Daniel ou de Paul, ou le livre de l'Apocalypse, la révélation que Jean a eue de Jésus, et quand ils ont eu la vision du Fils de l'homme, ils sont tombés par terre. Ils sont tombés par terre, mais ils ne sont pas restés là. Ils ont été relevés. Et ils ont été relevés, ils se sont tenus debout. Les orgueilleux, petits et grands, seront abaissés et ne se releveront jamais. Il n'y aura pas de pardon en ce jour-là. Et ce qui est dénoncé, c'est l'orgueil et l'idolâtrie. Alors comment faire pour ne pas être orgueilleux? Comment faire pour échapper à l'orgueil? Alors, vous avez peut-être des idées là-dessus. Ce que j'ai retenu de notre texte de ce matin, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue le règne messianique à venir. Après la vision, Ésaïe a eu cette exclamation, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et on a lu ensemble étudié le premier épître de Jean où il est question de cela d'un bout à l'autre. On ne doit pas perdre de vue la vision du ciel. Elle se trouve dans ce passage, elle se trouve dans bien d'autres. Jésus est élevé. Il est celui qui nous guide, il est celui qui nous attire à lui par sa lumière. Et la prophétie est certaine, elle va s'accomplir. Ne pas perdre de vue le royaume messianique à venir. Deuxième point, il y a un lien entre l'idolâtrie et l'orgueil. On pourrait croire que comment c'est possible, si on est orgueilleux, on se voit grand et on aurait envie que les autres viennent nous adorer. Et non, ici il est question que l'orgueil est profondément ancré dans la nature humaine. On a été créé pour adorer Dieu seul et on ne peut pas s'empêcher d'adorer. Si on n'adore pas Dieu, on adore nous-mêmes. Où on adore ce qu'on fabrique. Il y a un lien entre l'orgueil et l'idolâtrie. La loi exigeait d'adorer Dieu seul. Adorer Dieu seul. Et l'adoration au vrai Dieu va nous garder de l'orgueil. Sa position, quelle est notre position par rapport à lui? Quelle est notre position par rapport aux autres? Et on voit dans cette image qu'a Ésaïe, dans cette vision, Dieu est élevé et tout le reste est rabaissé. Tout est au même niveau. Tout le monde au même niveau. Et dans notre cœur orgueilleux, et il se cache toujours, bon, on est religieux, on sait que on adore Dieu parce que c'est le seul vrai Dieu, mais on se compare et on a de l'orgueil les uns par rapport aux autres. Et on se compare les uns et on se mesure les uns par rapport aux autres. Et c'est une vision faussée de ce qu'est la gloire de Dieu et l'adoration qu'on lui doit que de faire ainsi. Adorons Dieu seul, aimons nos frères et nos sœurs, selon ce qui nous est demandé. Et Jésus, l'apôtre Paul a dit, considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà une façon de se prévenir de l'orgueil et de l'idolâtrie. Un troisième point, je dirais attention dans les temps que nous vivons à la technologie. Attention à la technologie. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Heureux les pauvres en esprit. Heureux les cœurs purs, heureux les miséricordieux, heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus n'a pas dit heureux ceux qui ont en main le Samsung Galaxy S10. Il n'a pas dit ça. Tenir en main le Samsung Galaxy S10. Pour beaucoup de nos compatriotes, cela peut être quelque chose. La galaxie entière dans ma main, le Samsung Galaxy S10, le top du top du top de tout ce qu'on trouve. Non, Jésus n'a pas dit ça. Alors, pourquoi être attiré par les choses que l'on n'apprendra pas dans le ciel? Ces choses ne servent à rien dans le royaume de Dieu. Et les efforts que l'on va faire pour se les procurer seront au détriment des démunis de notre monde qui nous observe. Attention à la technologie de notre 21e siècle. La grande idole devant qui tout le monde se prosterne. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. C'est ainsi que Ésaïe termine son chapitre 2. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Et c'est ce que je voudrais vous encourager maintenant. Seigneur, merci de ancré en nous le danger de l'orgueil, de le tuer en nous, de le faire disparaître. Garde-nous de l'idolâtrie, de tout ce que les hommes fabriquent. Garde-nous de nous prosterner devant ce que nous faisons nous-mêmes. Si nous faisons quelque chose, c'est à cause des capacités que tu nous as données. Et à toi seul doit revenir la gloire et non pas à nous-mêmes, Seigneur, si nous avons la possibilité de faire quelque chose, à toi seul doit revenir la gloire. Merci pour tout ce que tu nous donnes, merci que pour les capacités que tu donnes à nos frères et à nos sœurs. Apprends-nous à les utiliser pour toi, gloire, et à ne jamais, jamais en tirer de l'orgueil et de la fierté. Seigneur, c'est toi qui dois avoir la première place dans nos vies. Garde-nous de le matérialisme. Nous qui sommes ici dans un pays tellement privilégié, c'est là, c'est à notre porte, ça nous entoure, ça nous imbibe. C'est un bruit autour de nous sans arrêt qui nous parle tout le temps de matérialisme et qui nous fait croire que le bonheur, c'est de posséder des choses que les hommes ont fabriquées. Le bonheur est de vivre de ce que tu nous donnes, Seigneur, et de nous contenter de ce que nous trouvons en toi, et là, il y a les plus grands trésors. Merci Seigneur de nous garder pour ce jour où viendra ta colère. On n'en a jamais été aussi proche. Garde-nous Seigneur Jésus, que nous puissions pouvoir être debout ce jour-là. Que nous nous échappions à la terreur qui régnera partout. Que nous comprenions que c'est toi qui arrive, notre Messie, celui qu'on aime, celui avec qui on veut passer tout le temps le reste de notre éternité. Dans le nom de Jésus, amen. Voilà, un petit moment convivial maintenant.